réalise quand on signe le contrat du siècle, ne devrait-on pas le sécuriser à minima par des clauses financières importantes en cas de rupture? Frédéric Ancel, c'est vrai que quand l'information est tombée sur l'annulation donc de ce contrat du siècle sur les sous-marins, on a pu avoir l'impression que n'importe quel pays pouvait déchirer un contrat comme ça très simplement. Est-ce que c'est le cas?
C'est le cas à condition de devoir payer ensuite des pénalités. Et c'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, les Australiens ne vont pas se soustraire à la loi commerciale internationale. Je rappelle que la France a fait différemment, mais pas si différemment que ça, avec la Russie, puisqu'on devait livrer deux bateaux Mistral qui, par ailleurs, de surcroît, étaient déjà fabriqués. Ouais. Donc, on va toucher des pénalités.
De quel ordre, les pénalités de
cette... Alors, a priori, si le contrat dépassait les 50 milliards et que pour la France, on devait récupérer de manière... Voilà, c'est ça. Un peu plus de 8 milliards d'euros, on devrait pouvoir espérer une pénalité de plus d'un milliard. Maintenant, l'idéal, je vais vous dire franchement, c'est qu'on puisse proposer ces sous-marins à une autre puissance qui aura à la fois la volonté et la solvabilité de les acheter.
Mais Frédéric Ancel, juste une petite question. Est-ce que les sous-marins américains à propulsion nucléaire, qui sont beaucoup plus furtifs et qui peuvent rester invisibles bien plus longtemps, ne sont pas beaucoup plus efficaces dans cette zone indo-pacifique que les sous-marins français au diesel, qui ne peuvent pas, qui sont obligés de remonter à la surface? Il y a eu une étude comparative, il y a un problème d'efficience aussi, non?
Bah, ils sont plus efficaces au regard de l'objectif qui est celui de l'Australie. Et aujourd'hui, l'objectif de l'Australie, c'est de lutter contre, en tout cas d'être dissuasif face à la flotte, à la fois d'ailleurs la flotte de surface et la flotte sous-marine, qui est en train de construire de manière fulgurante la Chine.
D'accord.
La première fois qu'il y a une discorde entre les deux, on oublie assez vite, mais il y a déjà eu des tensions, et assez récentes, entre les États-Unis et la France, en 2003 et en 2013 notamment.
Bien sûr. Et c'est le président d'ailleurs, Jacques Chirac, qui disait la relation entre les États-Unis et la France est toujours excellente, mais aussi très conflictuelle. Mmh. Et c'est vrai, il y a eu d'ailleurs une accumulation, et y compris récemment. La crise transatlantique a créé l'intervention américaine en Irak en 2003. N'oublions pas aussi l'épisode de la fameuse ligne rouge qui n'a pas été tenue par le président Barack Obama à l'été 2013 en Syrie.
Pour aller bombarder la Syrie, ce que François Hollande voulait faire, et à Barack Obama.
Et donc il a laissé la France seule sur la scène internationale à promouvoir une action militaire après l'usage des armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Le retrait effectivement chaotique d'Afghanistan qui n'a pas du tout été coordonné avec les alliés européens, de manière un peu plus anecdotique, mais quand même dans le cadre aussi de la réponse à la crise du Covid-19, cette décision unilatérale, en tout cas de Biden, de lever les brevets vaccinaux sans consulter les alliés européens encore une autre fois. Et puis maintenant, effectivement, cette alliance AUKUS qui se fait en fait dans le dos de la France par trois alliés stratégiques de la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.
Deux appartenant au Commonwealth.
Deux appartenant au Commonwealth.
Étant liés par un lien historique très
bien
fort
sûr,
aussi.
Voilà, donc après, c'est pas surprenant que les États-Unis, dans la région notamment de l'Indo-Pacifique, historiquement, se tournent en priorité vers ses alliés anglo-saxons. Bien sûr que c'est pas surprenant, et notamment avec l'Australie, qui en 1951 a signé cet accord avec la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, l'ANZUS, qui faisait que de facto, il y avait une alliance militaire entre ces trois pays.
Laurent Sardon, pourquoi c'est plus grave? Pourquoi on a ces mots? Est-ce que c'est des gesticulations, ou est-ce que vraiment c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a connu?
C'est-à-dire que ça additionne plusieurs choses. C'est-à-dire que ça additionne, d'une part, la rupture d'un accord commercial extrêmement important, donc ça, ok, mais aussi un sentiment de trahison, parce que ça fait depuis 18 mois que cet accord est préparé sans que nous, Français, on soit au courant. Alors, on verra plus tard si on n'aurait pas dû se rendre compte de quelque chose, si nos services de renseignement, mais a priori, on n'avait pas à envoyer des espions voir ce qui se passait en Australie. On avait la meilleure relation du monde avec eux depuis la signature du contrat en 2016. Ça fait 10 ans que... je le vois parce que dans les think tanks, on participe à ça. La France et l'Australie discutent de stratégies ensemble régulièrement pour justement construire une relation de confiance qui puisse surpasser l'entente anglo-saxonne dans laquelle nous, Français, on peut pas rentrer. Donc c'est grave pour ça. Et par ailleurs, ça signale un choix stratégique des États-Unis de se réorienter sur la zone indo-pacifique face à la Chine, parce que cet accord vise à encadrer la Chine.
Dans laquelle... Pardon, il est récent, ce choix de se tourner vers l'Inde.
On a une carte pour voir.
C'est Biden qui l'a dessiné. Non, 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 ça c'est très ancien. Ouais. En fait, dès Obama, il y avait eu cette idée qui s'appelait à l'époque le pivot vers l'Asie, c'était le concept, le nom du concept, que les États-Unis devaient rentrer dans le 21e siècle et se retirer de la vieille Europe et de l'Orient compliqué, en gros, pour se tourner vers la vraie menace du 21e siècle, qui est la Chine. Et donc, le pivot vers l'Asie, c'était l'idée qu'on allait basculer des forces militaires. Il y avait aussi un volet diplomatique, économique, etc. Je ne rentre pas là-dedans. On allait basculer les forces militaires sur ce théâtre qui s'appelle donc, qui a donc pris le nom de Indo-Pacifique, concept à la mode. Après, il y a eu les printemps arabes. Donc, le pivot vers l'Asie, Obama a laissé tomber, parce qu'il avait d'autres choses à faire. Trump l'a repris, et aujourd'hui, Biden le reprend également. Et je pense que ce traité AUKUS en est une manifestation éclatante. La question que nous, on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas dedans? Parce que nous, on a des intérêts, on a une présence militaire dans le Pacifique. Une grande présence militaire dans le Pacifique.
Mais Frédéric Ancel, pourquoi on n'est pas dedans? Parce que peut-être on est très petit. C'est ce que aussi les Américains nous ont rappelé à cette occasion.
On est pas
assez naïf.
On n'est pas très petit, mais on est moins docile que l'Australie, pour des raisons qui ont été très très bien rappelées. Une alliance militaire entre l'Australie et les États-Unis et qui remonte effectivement à l'immédiate après-guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a jamais été, aux yeux d'un certain nombre de présidents américains, suffisamment docile ou suffisamment suivi. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nous nous percevons, nous autres Français, comme les Britanniques d'ailleurs, mais pas comme les Australiens, comme une puissance militaire globale. Et par conséquent, on exige toujours, à mon avis avec raison, de pouvoir discuter et de proposer ou de contre-proposer. Et c'est pas toujours formidablement apprécié par les États-Unis, d'autant plus que la Chine est perçue par la France, Emmanuel Macron l'a rappelé à plusieurs reprises, comme un rival stratégique et peut-être même systémique, mais pour les États-Unis, c'est pire. Aujourd'hui, on est quasiment dans un système ennemi. Alors je mets ça entre guillemets parce qu'il y a encore des rapports économiques et commerciaux très très importants et pour l'instant évidemment on ne se bat pas. Mais de ce point de vue-là, les Américains considèrent que la France n'est pas suffisamment vindicative et offensive vis-à-vis de la Chine. Ça c'est une certitude.
Alexandra Duck-Scheffer, c'est une question, je veux dire, un serpent de mer. Elle n'existe pas cette défense européenne. On essaie de la construire, c'est une chimère. C'est aussi ça ce dont se sont rendus compte les États-Unis, les Australiens également, non ? Ils ont besoin d'une protection et le parapluie américain est plus puissant que nous.
Alors c'est vrai que dans un environnement géostratégique où la Chine devient de plus en plus menaçante, hein, elle a déclaré une guerre commerciale à l'Australie, elle militarise également sa politique en mer de Chine du
On
Sud.
On a vu une armada de bateaux approcher vers l'Australie.
Exactement, il y a vraiment une escalade, y compris dans le domaine militaire, qui inquiète énormément l'Australie. Et dans ce contexte-là, à qui est-ce qu'ils font appel? Aux gendarmes du monde, les États-Unis, qui continuent à être perçus en fait dans ce rôle-là. Et en s'alignant complètement sur les États-Unis et donc leur politique d'endiguement par rapport à la Chine, l'Australie se garantit la protection, y compris militaire, nucléaire, des États-Unis. Donc c'était vraiment ça. Et du coup, la France, dans ce paysage géopolitique qui préoccupe de plus en plus l'Australie, était perçue comme peut-être moins, comme un allié moins solide que les États-Unis. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Ancel, il y a une double frustration, en fait, qui a débouché à cet accord.
Double frustration côté européen ?
Voilà, européen, où nous, on se dit, les Américains, en fait, sont beaucoup trop agressifs par rapport à la Chine. Nous, on n'a pas envie de s'aligner, en fait, sur cette politique d'endiguement par rapport à la Chine. Et les Américains aussi n'ont pas confiance en nous. C'est-à-dire qu'ils nous regardent, nous, puissance dite d'équilibre entre les États-Unis et la Chine, souhaitant pas prendre une position radicale dans cette compétition. Et donc, du coup, ils se disent, les Européens sont peut-être pas finalement des alliés non plus très fiables de Washington dans cette compétition-là. Vous voyez, donc il y a une double crise de confiance, en fait.
Et bien, justement, on va l'évoquer avec vous, Nadia, la manière dont l'Union européenne n'est pas si naïve vis-à-vis de la Chine.
Et pas si timorée que ça, en tout cas, sur le volet commercial depuis quelques mois, même depuis quelques années, puisque en 2016 déjà, c'est l'Europe qui avait refusé d'accorder le statut d'économie de marché à la Chine, à l'OMC. Elle le demandait depuis très longtemps, à l'Organisation mondiale du commerce. Et on se souvient d'ailleurs que les eurodéputés avaient assez formellement et assez fermement accusé la Chine de pratiquer une concurrence déloyale, notamment en subventionnant son économie. Et puis l'Union européenne a continué à muscler son arsenal, si on peut dire les choses ainsi. L'an dernier, elle s'est dotée d'un procureur commercial, c'est-à-dire une sorte d'inspecteur des travaux finis, qui va notamment veiller à ce que la Chine respecte les règles de la propriété intellectuelle. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, puisque dans la foulée, on a réussi, la France notamment, on a réussi à protéger certains produits agricoles européens, le vin par exemple, de la contrefaçon chinoise, et on sait qu'elle est massive. On a signé un accord sur les indications géographiques protégées, les fameuses IGP. Et puis, bien sûr, il y a eu la suspension, ça en a beaucoup parlé, la suspension de l'accord d'investissement, un accord commercial absolument colossal. Ça, c'était entre Bruxelles et Pékin en mai dernier. Et tout ça, d'ailleurs, sur fond de condamnation sur le plan diplomatique, sur fond de condamnation des persécutions des Ouïghours, parce que plusieurs responsables chinois avaient écopé de sanctions. Ça avait fait dire au site d'information Politico, ils avaient titré comme ça, surprise, l'Union européenne sait comment gérer la Chine. Laurence Tardon, est-ce que les Américains ne sont pas de mauvaise foi quand ils nous traitent, nous Européens, de gros mous,
parce que c'est hypocrite.
C'est vrai que nous, Européens, continental, on a choisi de se battre sur le terrain des investissements, de la propriété intellectuelle, etc. Et pas trop sur le plan militaire, encore que la France fait des exercices dans la région. Bon, mais je parle de l'Union européenne, là. Mais je trouve que les Américains sont de mauvaise foi, certainement, et c'est d'autant plus douloureux pour nous dans la séquence là, de la semaine dernière, qu'on avait tellement d'espoir avec cette administration Biden.
Avec Joe Biden, après Donald Trump.
Parce que Joe Biden était le successeur de Trump qui allait revenir, enfin qui allait, il l'a dit encore à l'ONU dans son discours, c'était mardi, America is back, l'Amérique est de retour, le multilatéralisme et les droits de l'homme, etc. Donc il allait redonner à l'Amérique sa stature morale de grande démocratie.
C'est là où on a été naïf de le croire.
Et là, peut-être, on a été naïf de penser qu'ils allaient nous écouter, nous respecter. Anthony Blinken, on fait des gorges chaudes parce qu'il est très il est francophone.
Oui, il a grandi à Paris.
On a conclu qu'il était francophile, mais il n'y a pas forcément de lien.
Donc on a été naïf, malgré ça.
On a certainement été naïf.
Parce que Frédéric Ancel, en fait, c'est America First, que ce soit Trump ou Biden, dont on dit qu'il est un peu le Trump sans les tweets, c'est ce qu'a dit notre ministre des Affaires étrangères.
Mais bien sûr, et est-ce que c'est stupéfiant? Est-ce que, je vais poser une question un peu provocatrice, est-ce qu'un président de la République française, quel qu'il soit, ce n'est pas mon genre, ne va pas d'abord tenter de défendre les intérêts français? Alors le problème, c'est la manière de faire. Et là, la manière n'a pas été respectée, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, mais je suis d'accord avec ce que Laurence vient de dire. En fait, on est d'autant plus ému qu'on avait attendu quelque chose d'autre. De Joe Biden. Et je pense que plutôt que de critiquer le crypto sempiternel impérialisme américain, tentons nous autres Français et Européens, Français seuls, on n'y arrivera pas. Donc Européens, de créer ce que vous avez, je crois, mentionné tout à l'heure, à savoir l'Europe puissance, de façon à ce que ça ne puisse plus se reproduire parce que ça coûterait trop cher politiquement ou économiquement aux États-Unis.
Au contraire, être encore un stimulateur supplémentaire parmi les multiples épisodes, mais effectivement, il y a en fait une grosse divergence entre les pays européens quant à, je dirais, surtout le degré d'ambition, en fait, quand on réfléchit en fait à ce que devrait être une Europe cohérente, efficace en matière de défense et de sécurité. Il y a en gros 27 versions différentes en Europe aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile pour la France, qui effectivement est aujourd'hui la plus grande puissance militaire dans l'Union européenne, notamment dans le contexte du Brexit, c'est très difficile de rallier en fait. Et c'est pour ça aussi que la France a initié un certain nombre de formats ad hoc, avec des coalitions comme l'initiative d'intervention européenne qui rassemble 13 pays de l'Union européenne et qui travaille justement sur des scénarios de crise où les États-Unis vont nous dire « désolé, ce n'est pas notre intérêt vital », où l'OTAN ne sera pas le cadre d'action adéquat et où donc les Européens devront gérer les crises eux-mêmes.
Et compter que sur eux-mêmes.
Bien sûr.
Frédéric Ancel, on est un peu coincé quand même vis-à-vis des États-Unis. Vous avez dit quelque part qu'on pouvait leur opposer un veto au Conseil de sécurité, mais très franchement, ils nous aident aussi au Mali à lutter contre le terrorisme, donc on doit les ménager.
Oui, sur le plan logistique, militaire, financier, on ne peut pas lutter contre les États-Unis. Sur le plan politique, oui, on peut ici ou là, effectivement, au Conseil de sécurité, ou dans le cadre de l'Union européenne et peut-être même de l'OTAN, faire un certain nombre de choses et dire qu'on n'est pas content du tout. Mais sur le terrain, ce n'est pas possible. Et effectivement, là, l'exemple que vous donnez est excellent. On est au Mali depuis 2013. Les soldats français sont considérés comme tout à fait professionnel et remarquable, y compris d'ailleurs par les Américains qui nous voient comme une espèce de couteau suisse. Bon, mais enfin, ils nous donnent beaucoup de renseignements et ils nous donnent beaucoup de kérosène. Ils nous apportent un certain nombre d'aides très très techniques sans lesquelles on pourrait peut-être se débrouiller aussi bien, mais ce n'est pas sûr. L'inverse est évidemment pas vrai du tout. On ne peut pas considérer que la France peut seule, je le répète, lutter contre les États-Unis.
Alors Laurence Tardon-Vert, où est la porte de sortie dans cette zone Indo-Pacifique? Est-ce qu'on se tourne vers l'Inde? Alors maintenant, on nous parle de l'Inde comme c'était un peu un lot de consommation. consolation, c'est compliqué.
Je ne suis pas sûr que l'Inde ait la solvabilité pour acheter tous les sous-marins qu'on voulait vendre.
Oui, parce qu'on voudrait leur revendre.
De toute manière, ils ne sont pas encore construits. Mais je pense que non, la marge de manœuvre de la France est effectivement extrêmement faible vis-à-vis des États-Unis. Le jeu, ça va être, c'est ce qu'on fait d'ailleurs,